Une heure de culture, d'actu, dans la bonne humeur sur Transistor.
C'est quand ?
C'est en ce moment.
Et oui, on commence ce direct en beauté avec l'émission culte de Transistor en ce moment jusqu'à 19h. L'émission culte dont Marie, la voix off d'Injiggle, se trouve actuellement en régie face à moi. Alors au fil des voix, ce soir, pendant en ce moment, vous aurez l'occasion d'entendre le journal de la rédac avec l'horoscope d'Étienne, les fun facts scientifiques de Vinciane et la chronique culturelle de Juliette. Ce sera alors le moment du live de l'émission avec nos musiciens Benoît et Claire, suivi de la mini-table aujourd'hui animée par Rémi et Arthur. Et enfin, de la rubrique Lifestyle, où Titouan et Occitane nous parlerons philo et avenir. Mais avant tout, on commence avec le journal de la rédac et tout de suite, le journal des bonnes nouvelles de Marie. Bonjour Marie.
Eh bien, bonjour et merci pour le premier journal des bonnes nouvelles. C'est parti. Il y a quelque chose de déprimant à se réveiller dans un monde où dormir plus de 9 heures est une hérésie et faire du neuf un impératif vide de sens. Un monde dont on perçoit les imperfections à peine 9 ans, qui nous heurte en pleine face à 19 et que l'on quitte exténué à 90. Un monde que 9 vies ne suffiraient pas à rendre meilleur, dans lequel l'autoroute A9 est perpétuellement bouchée et dans lequel 9 enfants sur 100 ne vont pas à l'école. Un monde dans lequel 9 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, tandis que la population a fait 9 millions de morts en 2015 et qu'on se demande toujours comment nourrir 9 milliards d'humains en 2050.
Ça commence bien.
Et oui, mais attends, parce que puisque Transistor a 9 ans, l'occasion était trop belle pour réhabiliter ce chiffre 9 et pour faire revivre le journal des bonnes nouvelles. Parce que n'oublions pas que 9 ans, c'est aussi un âge où l'on peut faire de belles choses, comme composer un concerto pour violon, comme l'a fait la jeune prodige Alma Dutcher, que le premier prototype de cet outil intelligent qui vous facilite la vie et vous attend dans votre poche a été dévoilé par Steve Jobs à 9h41 et que vous ne pouvez pas ne pas vibrer en écoutant la 9e symphonie de Beethoven.
Une belle introduction pour le journal des bonnes nouvelles, un peu remanié alors.
Et oui, le journal des bonnes nouvelles cette année, c'est un nouveau format. Un chiffre d'abord, un portrait ensuite, une pensée d'ailleurs dans la foulée et une rubrique bougez-vous pour conclure. Alors c'est parti pour cette version un peu spéciale. Commençons d'abord par le chiffre du jour. Aujourd'hui, 9% de la population mondiale vit dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 2$ par jour. Alors certes, c'est énorme, mais si l'on regarde en arrière, on se rend compte que depuis 20 ans, le pourcentage de personnes qui vivent dans une extrême pauvreté a été divisé par 2.
La moralité alors ?
On a fait d'énormes progrès en matière d'éradication de la pauvreté, même si moins de 10% de la population en serait consciente dans la plupart des pays.
Alors un chiffre positif, je suis d'accord, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se cache derrière ?
Alors, et oui, on peut se demander quels sont les dessous de ce chiffre et quelles sont les politiques mises en œuvre qu'il serait bon de poursuivre pour espérer éradiquer cette extrême pauvreté d'ici 2050. Alors déjà, on a su réduire les coûts du commerce pour baisser les prix et aider les pays à s'intégrer aux marchés mondiaux. Tenez par exemple, en Afrique, 5% seulement des importations de produits alimentaires proviennent d'autres pays africains à cause des obstacles au commerce intra-régional, alors que faire venir les denrées alimentaires des pays voisins pourrait permettre d'améliorer la situation, ce qui est le cas depuis peu. Ensuite, des ONG ont œuvré pour soutenir les populations locales. Au Kenya, et en Éthiopie par exemple, on a utilisé l'accès au réseau de téléphonie mobile pour fournir aux agriculteurs des informations par SMS sur le prix des cultures, une technique qui a contribué à accroître revenus et production. Et puis, il s'agit aussi d'aider les gouvernements à mettre en place des politiques efficaces en matière de santé, d'éducation et d'infrastructure, des politiques qui, cette année, ont semblé porter leurs fruits.
Alors, tu nous as préparé des preuves ?
Eh bien, oui. Figurez-vous que le Paraguay a été le premier pays d'Amérique du Sud à avoir officiellement éradiqué le paludisme cette année, et le nombre d'enfants n'ayant pas accès à l'école primaire dans le monde a considérablement baissé, puisqu'il est passé de 100 millions en 2000 à 60 millions aujourd'hui.
Alors, quelques derniers chiffres pour le reste.
Pour la route.
La route.
Eh bien oui, je vous l'avais dit, puisque cette émission tournera autour du chiffre 9. C'est l'occasion de se rappeler que le 9 mai dernier, la Malaisie a voté pour le Premier ministre qui a promis de restaurer l'état de droit et de mettre fin à une ère de répression et de scandales financiers, et que le 9 juillet, les ennemis de toujours que sont l'Éthiopie et l'Érythrée ont annoncé ne plus être en guerre.
Bon alors Marie, pour la deuxième rubrique de ce journal des bonnes nouvelles, tu nous as préparé un portrait collectif centré sur le 9e art, c'est ça ?
Eh bien oui, ils s'appellent Paul Coé, Laure Garancher ou Louise Jaure, sont auteurs de bandes dessinées et ont décidé de mettre leur talent au service de l'action sociale en formant le collectif The Ink Link. Leur histoire commence en 2015 lorsqu'ils réalisent, en collaboration avec l'OMS et dans le cadre d'un programme de promotion de la santé en Guyane, des histoires en bande dessinée pour répondre à la demande de campagnes de santé compréhensibles par tous.
Et depuis ce jour-là ?
Eh bien depuis, ce réseau engagé qui regroupe dessinateurs et professionnels des ONG multiplie les projets avec toujours un but en tête, favoriser le développement de la population par une approche bottom to top.
Des exemples ?
Eh bien sûr. Dans l'Odyssée d'Ali, des dessinateurs ont illustré les difficultés d'un mineur isolé à Paris en partenariat avec Médecins sans frontières. Certains ont réalisé avec les Indiens du village de Kouamala une BD sur les dangers de la bière de manioc et de l'alcool. D'autres ont illustré les instructions médicales à mettre en œuvre pour lutter contre le paludisme en Guyane. Certains ont expliqué en dessin la robotique aux personnes âgées. Et d'autres ont illustré de manière ludique et accessible les actions de l'OMS.
Alors en effet, c'est important. Alors pour la fin de ce journal, tu nous as annoncé une rubrique « Pensez d'ailleurs ».
Et oui, et puisque tu parles d'inspiration et que ce sont les 9 ans de Transistor, on pourrait s'intéresser aux moyens de voir les choses d'un regard neuf. Pour cette rubrique, je vous ai donc déniché un extrait de Siddhartha, un roman philosophique signé Hermann Hesse, qui retrace le cheminement spirituel d'un fils de Brahman. Et voyons ce que Hesse nous dit. Après être tombé dans la débauche et dans les tentations, avoir été séduit par les plaisirs de la chair ou l'amour du jeu, Siddhartha, le protagoniste, décide de changer radicalement son point de vue sur les choses. Écoutez. Il regarda autour de lui comme s'il voyait le monde pour la première fois. Il était beau, le monde. Il était varié, étrange, énigmatique. Là, du bleu, ici, du jaune, là-bas, du vert. Tout était beau. Tout était plein de mystère et d'enchantement. Et au milieu de tout cela, Siddhartha, réveillé, en route vers lui-même. La forêt, les étangs, rien n'était nouveau. Mais Siddhartha ne l'avait jamais vu. Sa pensée l'en avait toujours tenu éloigné. Maintenant, il était auprès de ces choses. Il en faisait partie. Elles avaient toujours existé. Mais Siddhartha ne l'avait vu qu'à travers un voile, qu'il considérait avec défiance, et que sa raison devait écarter et détruire, puisque la réalité n'était point là, mais au-delà des choses visibles. Quelle erreur, se dit-il. Quand on lit une écriture, on n'en méprise point les signes et les lettres. On ne voit point en eux un heurt, un leurre ou une vulgaire enveloppe. Eh bien, ce qu'on peut tirer de ce message, c'est un des principes de la philosophie hindoue. Considérer le monde pour ce qu'il est et s'étonner des petites choses du quotidien, petites choses qui d'ailleurs sont aussi prétextes à la créativité. Parce que oui, pour clore ce JBN, la rubrique « Bougez-vous » nous attend. Et si pour porter un regard neuf sur les choses, pas besoin de méthode miracle, mais simplement d'un peu de volonté, il existe en revanche plusieurs techniques pour booster sa créativité et faire du neuf sans avoir besoin de 9 vies ou de recourir aux 9 muses pour trouver l'inspiration.
Alors la première méthode, c'est donc le Creative Problem Solving d'Alex Osberne, mais en quoi ça consiste ?
Alors pour faire simple, en 2 respirations. La première, l'inspiration ou la divergence. On suspend le jugement, on cherche des idées inédites et on note tout. Et la deuxième, c'est l'expiration ou la convergence. Cette fois-ci, on se réfère aux objectifs, on améliore les idées et on juge constructivement. La deuxième méthode, c'est une petite technique très facile à retenir pour résoudre un problème avec créativité. La méthode Scramper. En gros, retenez que chaque lettre correspond à une idée et chaque idée a une manière de résoudre le problème. Substituer, S, combiner, C, adapter, modifier, produire, trouver par exemple un autre usage à un objet, éliminer, réorganiser ou renverser, en prenant le problème à l'envers et en trompant les attentes.
Alors Scramper, on retiendra une troisième méthode pour la route ?
Alors oui, vous connaissez sans doute la méthode Thinking Outside the Box, qui consiste en gros à penser selon une perspective nouvelle, mais j'ai plus original à vous proposer, le brainwriting. 6 participants écrivent 3 idées sur un morceau de papier en 5 minutes et chacun s'échange les papiers. Le but ensuite, trouver une autre idée à partir de celle des autres participants, une technique qui a fait ses preuves. Et une dernière technique pour finir, celle des 6 chapeaux. Alors je vous résume tout ça. Pour être créatif, il faut porter tour à tour plusieurs chapeaux. Le chapeau blanc, celui de la neutralité. On se contente de faits et de données chiffrées. Le chapeau jaune, celui de l'optimisme. On fait des commentaires positifs. On essaie de voir les choses sous un angle nouveau. Le chapeau vert, la créativité. On cherche de nouvelles idées et de nouvelles solutions sans se mettre aucune barrière. Le chapeau noir, on se montre prudent et alarmiste. Le chapeau rouge, l'émotion. On réagit à partir de sentiments et d'intuitions. Et enfin, le chapeau bleu, l'organisation. On canalise l'idée avec discipline.
Bon alors, on se sent un peu mieux avec toutes ces infos et bonnes idées. Le mot de la fin ?
Eh bien, rien de très original, mais du coup, bon direct, bon anniversaire à Transistor et à bientôt pour un nouvel épisode du JBN.
Une heure de culture, d'actu, dans la bonne humeur sur Transistor.
C'est quand ?
C'est en ce moment.
Bon alors, merci beaucoup Marie pour ce journal des bonnes nouvelles, ma foi, fort instructif. Eh bien, on va enchaîner tout de suite avec Étienne qui va nous livrer sa vision, la vision de votre avenir avec son neuroscope.
Oui, car chers auditeurs, il est temps d'aller vite. Nous n'avons pas le temps de niaiser. Allons explorer les limbes du futur pour savoir ce que l'hiver nous réserve. Hiver, période de fête de fin d'année et de partiel. Bélier. Vous qui êtes né sous la constellation à la tête dure, je vois une sévère gueule de bois lors d'un nouvel an bien arrosé. Taureau. L'alignement de Saturne et de Mercure est formel. Les racines hispaniques de votre moi astral vont ressurgir et vous n'allez rien faire comme tout le monde. Vous allez refuser les cadeaux le 25, faire des blagues le 28, manger du raisin le 31 et exiger des cadeaux le 6 janvier alors que tout le monde mangera de la galette. Gémeaux. La galaxie d'Étéocle Polynice Cain Abel Romulus Rémus que vient de découvrir le laboratoire de physique de l'ENS Lyon est formelle. Vous allez vivre des luttes fratricides lors de ces fêtes de fin d'année où se retrouve toute la famille. Cancer, je n'ai même pas besoin de lever les yeux vers les cieux pour voir que votre signe est l'anagramme du mot cancre, ce qui, en période d'examen, est de mauvais augure. Lion, les autorités astrales sont convaincues que vous avez tout à fait votre place à l'ENS Lyon et donc vous allez briller lors de vos partiels. Vierge, les lunes de Jupiter se mettent pour vous en triangle et sont ainsi un signal d'alarme. Ne cédez pas à la fainéantise durant vos révisions ou ce seront vos copies qui seront vierges. Balance, les naines rouges, noires, blanches, outre-mer et jaunes du ciel pèsent le pour et le contre et sont tout à fait d'accord sur le fait que vous êtes une vraie indécis. Un vrai indécis. Vous n'allez pas savoir si vous allez passer Noël en famille ou entre amis, si vous allez attendre que les SMS de bonne année vous viennent ou si vous allez au-devant de vos amis, ou vous ne savez pas, la question cruciale, si vous allez mettre ces 15 jours au service du travail ou de la détente. Scorpion. Avec un signe pareil, score plus pion, vous ne pourrez qu'être convaincu par Bonne Pioche, l'émission de jeux de société de Transistor. Autopromo. Sagittaire. Savez-vous qui est Sagittaire ? Marion Maréchal Le Pen. Que faut-il en conclure ? Avez-vous déjà songé à un double diplôme ? Capricorne. Toutes les forces célestes sont d'accord sur un point. Avec vos pattes de cabri endurantes et votre puissante queue de poisson, vous allez avoir 20 à votre partiel de sport. Bon, encore faut-il avoir un partiel de sport. Verseau, l'éther a mis du temps à me répondre, mais voilà ce qu'il me dit. À force de scepticisme au sujet de l'astrologie, vous n'allez pas croire le surveillant de vos examens quand il vous annoncera que l'énoncé a lui aussi un Verseau. Dommage. Et enfin les poissons, la phase montante et descendante de la lune montre que vous avez pratiqué de manière active le cannibalisme pendant ces fêtes de fin d'année et ainsi acquérir une excellente mémoire. Et réussir vos partiels en recrachant tout ce que vous aurez ingurgité. Mais faites attention, car comme dirait Montaigne, il faut viser au terme une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. Voilà, je retourne au cours du professeur Trélounet et je rends les micros. À vous les studios.
Bah, merci beaucoup Étienne pour cet horoscope. J'aurais aimé être Lyon pour réussir mes partiels de fin d'année et avoir ma place à l'ENS, mais malheureusement, je crois que je ne suis pas Lyon, mais Capricorne. Bref, trêve de plaisanterie, on passe tout de suite à la rubrique Fun Facts avec Vincienne. Qui va nous proposer donc des fun facts scientifiques, si j'ai bien compris.
Une heure de culture, d'actu, dans la bonne humeur, sur Transistor.
Aujourd'hui, on parle de chants de baleines, et plus précisément de l'histoire tragique d'une baleine surnommée la baleine la plus seule du monde. Mais tout d'abord, un point sur les chants des baleines. Le chant des baleines fonctionne à peu près comme un radar. Les baleines émettent des ondes sonores qui parcourent l'eau dans toutes les directions et qui reviennent vers la baleine qui les a émises lorsque les ondes rencontrent un obstacle, comme par exemple un poisson. La baleine calcule alors, en quelque sorte, le temps écoulé entre le moment où elle a émis l'onde et le moment où elle a reçu l'écho de celle-ci, et ça lui permet de sentir son environnement. Le chant peut aussi avoir un rôle dans la recherche de partenaires, et il varie un peu selon les espèces, mais globalement, ça ressemble à ça. Ça, c'était une baleine bleue du sud du Pacifique, et l'enregistrement a été accéléré 10 fois pour qu'on entende quelque chose, parce que les baleines chantent entre 12 et 25 Hz, alors que les humains n'entendent qu'à partir de 20 Hz. On en était là des connaissances sur les baleines, quand en 1989, dans le Pacifique Nord, on détecte ça. On ne sait pas de quelle espèce ce chant provient, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle. En fait, ce qu'on entend, c'est le chant d'une baleine désaccordée. Elle chante à une hauteur de 52 Hz, bien plus haut que ses copines baleines. En suivant ses migrations, on s'aperçoit qu'elle ne suit pas les mouvements des autres espèces connues, et donc des scientifiques formulent l'hypothèse que ses congénères ne l'entendent pas, et qu'elle ne les entend pas non plus. 52 Hz errait alors dans les océans, sans même savoir que d'autres baleines nagent tout près. On la surnomme « la baleine la plus seule du monde », ou 52 Hz. Mais rassurez-vous, peut-être que cette histoire n'est pas si tragique que ça, puisque certains scientifiques, dont Christopher Willis Clark, pensent que de nombreuses baleines sont capables de l'entendre, et que 52 Hz est juste une anticonformiste désaccordée. Des enregistrements de 2010, en Californie, ont de plus montré l'existence d'un groupe de baleines chantant à 52 Hz. Notre baleine la plus seule du monde serait alors membre de ce groupe. Et ce membre aurait décidé de se balader toute seule le jour où ces enregistrements ont été faits. En tout cas, que cette bizarrerie soit due à des hybrides incapables de chanter juste, à un dialecte ou à une extravagance de leur part, 52 Hz n'est pas seul et c'est tout ce qui compte.
Eh ben dis donc, si même les baleines se mettent à chanter faux, où va le monde ? On enchaîne tout de suite sans transition avec Juliette qui va nous faire une petite chronique culturelle.
Exploration des possibilités esthétiques offertes par la radiodiffusion, travail du son, production d'artefacts ou d'images sonores. Vous l'avez compris, tu l'as compris Maë. Pour fêter l'anniversaire de votre radio préférée tout en papotant culture, nous allons aujourd'hui parler de la création et de l'art radiophonique. Dès les premières formes d'art à la radio, car c'est bien de cela qu'il s'agit, on entend le souci de s'emparer de ce médium spécifique et de ne pas considérer le manque de vision et d'image, entre autres, comme un handicap pour faire de l'art. En témoignent quelques-uns des principes de l'art radiophonique donnés par Robert Adrian Hicks dans son texte « Toward a Definition of Radio Art », principe que l'on retrouve traduit en intégralité sur la revue en ligne « Syntone ».
Alors, l'art radiophonique est l'usage de la radio en tant que médium pour l'art. L'art radiophonique est composé d'objets sonores expérimentés dans l'espace radiophonique et l'art radiophonique n'est pas une combinaison de radio et d'art. L'art radiophonique est de la radio faite par des artistes.
Mais au début des années 1920, au moment des premiers pas de la radio, cette dernière est surtout considérée comme un moyen de transmettre et retransmettre des contenus préexistants. Toutefois, certains auteurs commencent déjà à édicter des règles et à envisager les spécificités de ce médium et du langage qui peut s'y développer. Ce dernier doit prendre en compte les voix, bien sûr, les sons diffusés, mais aussi les silences, ces éléments étant essentiels à l'art. L'origine de cet art radiophonique est souvent rattachée aux futuristes italiens et russes, fascinés par la radio. Mais comme les futuristes italiens n'ont qu'un accès restreint à ce médium, ils développent avant tout des performances poétiques et littéraires qui inspireront d'autres artistes, à l'image d'Isidore Isou, dont on a pu entendre un extrait du traité de Bave et d'Éternité au début de cette émission. C'est à la même époque que l'on voit se développer les Hörspiel allemands. Il faut dire que les possibles offerts par la radio ont très vite été explorés par des penseurs et des dramaturges tels que Benjamin, Brecht et d'autres. Le but est très rapidement de produire des artefacts, voire même de piéger et surprendre les auditeurs.
Alors maintenant, tu vas nous parler de la guerre des mondes d'Orson Welles de 1938.
Je vais juste vous laisser apprécier les effets de la plus célèbre arnaque radiophonique du siècle dernier, lorsqu'Orson Welles a fait croire à tout le monde qu'une attaque extraterrestre était en train de se produire. Bien sûr, personne n'a été dupe, et tout le monde a pris ça pour une bonne blague, à l'image du juge Kennedy d'ailleurs.
Juge Kennedy, que pensez-vous du radiothéâtre de M. Wells ?
J'ai assurément une opinion. Je crois que M. Wells et la chaîne Columbia Broadcasting System devraient être traduits en justice pour leurs mauvaises actions. La prestation radiophonique de Wells dimanche soir a démontré ses instincts inhumains et son plaisir aliéné d'engendrer de la détresse et de la souffrance à travers tout le pays. Il incarne le furoncle. Le furoncle suppurant des artistes du théâtre dégénéré. Et il doit des excuses pour ses actions dignes d'une aliénation consommée.
Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin, puisque c'est aussi de ces premières tentatives que va naître la recherche fondamentale sur le son dans des organismes de diffusion dans l'immédiate après-guerre. On peut citer à ce titre l'invention de la musique concrète à la RTF par Pierre Schaeffer et Pierre Henry. On comprend alors que le son se travaille et peut constituer une véritable matière esthétique malléable.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. Je me permets d'interrompre parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Hop, 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 hop. Doucement, pardon, on va encore se faire censurer par Facebook. À ce rythme-là, il ne manque plus que je mette une vignette d'Orson Welles nu, ou pire, sans son cigare pour ma chronique et c'en sera fini. Bref, la recherche se développe, mais il ne faut pas non plus oublier qu'à l'époque, la radio est encore sous le monopole de l'État. Monopole qui ne prendra fin qu'en 1980. Dans les années 1960 et 70, on assiste donc au développement des radios pirates.
Alors radio pirate, station de radio émettant sans autorisation administrative.
À partir de 1968 et au cours des années qui vont suivre, la réalité et ses bruits vont s'inviter au micro, alors que ce monopole de l'État commence à être de plus en plus radicalement contesté. C'est ainsi que ce besoin de libre expression va donner lieu au documentaire de création, puis à la fiction, notamment au départ, au sein de France Culture. Ces formes artistiques diverses qui sont aujourd'hui regroupées sous le terme de radiophonie, ces îlots de création, en plus de produire de petites pépites, sont aussi des moyens de continuer à allier création et satire, à l'image de cette fiction diffusée sur Arte Radio.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes un utilisateur Hippolib
Ouais, tout à fait, régulier. J'ai vu, hein, ma fille a commencé là-dedans, et puis moi je suis parti avec. Et maintenant, tous les matins, je vais au travail avec. Moi, j'étais pas convaincu par les chevaux, et je vous avouerai que depuis que j'ai commencé, je peux plus m'en passer. En plus, moi j'ai eu des soucis, petits soucis de permis de conduire, qui n'ont aucun. Il n'y a pas lieu d'être d'en parler, mais enfin bref. Voilà, donc pardon, je vais juste le rattacher parce que comme ça, vous savez, hein, il y a quand même
un temps qui est.
Oui, la borne, voilà.
Voilà, bah, celle-là, elle marche bien, oui.
Parce que je me suis fait avoir l'autre fois. J'ai eu un branchement qui avait été mal fait et bon, j'ai mis un peu de temps parce qu'il m'avait débité ma carte de 100 euros. Voilà.
Pourquoi épauler, vous ?
Bah déjà l'amour du cheval, mais surtout c'est pour sauver le climat. Hein. C'est ma légère contribution, c'est la part du colibri, quoi. Donc, ouais.
Fin de cette chronique culturelle, j'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir notre nouveau format du Journal de la Culture. N'hésitez pas à aller voir les sites de France Culture et d'Arte Radio et de Saint-Aune pour vous renseigner sur l'art et la création radiophonique. Et je laisse May poursuivre.
Eh bien, merci beaucoup Juliette pour cette chronique culturelle très intéressante sur la création radiophonique. Tu sais comment me convaincre décidément.
Eh oui.
C'est tout de suite parti, il est 18h25 pour une petite page de pub.
Ah, le stress, le projet. Ah non, mais j'en peux plus là. Mais je suis enfin libre, je suis enfin tranquille. Là, je me prends une petite balade. Et grâce à ce séjour, je peux me détendre. Je peux courir gaiement, je peux m'abandonner. Je peux être libre.
De grands espaces, rien que pour vous.
Libre. Ah. Ah bah, je tiens. Il n'est pas gros, bien lui.
Les chasseurs, premiers écologistes de France.
Et c'est parti après cette petite page de pub pour le live dans ce moment, pardon, j'allais dire en spectateur, mais où va le monde ? Bonjour Benoît et bonjour Claire qui nous rejoint sur cette radio pour ce soir. Vous allez nous jouer une chanson ?
Ouais.
Alors qu'est-ce que vous allez nous chanter ?
Bah du coup on va jouer Jimmy de Moriarty.
Un grand classique.
Voilà.
Eh bien je vous en prie.
Jim and your auntie Jim and your cousin Jim, come home Jimmy, cause you need a bath, and your grandpa Jimmy is still gone dark. There's Buffalo Jim, Buffalo Jim, and Jim Buffalo, Nana, didn't you know? Jim, Jimmy, Jimmy, last cigarette, there's buffalo piss and it's all kind of wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose, cause all roads lead to Rome with the buffalo. Buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. Hey, you gotta have a wash, but you can't clean your name. You're now called Jimmy, you'll be Jimmy just the same. Keys are in a bag, in a chest by the door, and one of your friends has taken the floor. Jimmy, won't you please come home, where the grass is green and the buffaloes roam. Dear old Jimmy, you've forgotten you're young, but you can't ignore the buffalo song. The buffaloes used to say, proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. If you remember your unknown, buffalo land will be our home. If you remember your unknown, buffalo land will be your home.
Bon, alors on est que deux dans le studio pour vous applaudir, mais bravo, c'est super joli, ça fait longtemps que vous jouez ensemble.
On a commencé au lycée ensemble, donc c'était il y a 5-6 ans.
Ouais,
on a fait quelques concerts tous les deux pendant quelques temps, MJC, beaucoup, Fête de la Musique.
Et maintenant sur Transistor.
Voilà, c'est ça.
Ok, et bah il est 18h30 sur Transistor, on passe à la deuxième partie dans ce moment, avec la mini-table, et c'est Rémi qui commence avec son invité Cachané, qui est en duplex depuis Cachan du coup.
Tout à fait, bonsoir Hugo Harari Kermadec, est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonsoir. Donc, Hugo Harari Kermadec, vous êtes maître de conférence à l'ENS Paris-Saclay, à l'Institut des dynamiques historiques de l'économie et de la société. Vous êtes statisticien, spécialiste de l'économie de l'éducation, et en particulier, vous vous êtes attaché à étudier les frais d'inscription dans l'enseignement supérieur, sujet qui défraie la chronique actuellement, avec le collectif ACIDE, composé d'une demi-douzaine d'autres enseignants-chercheurs. Vous avez publié « Arrêtons les frais » pour un enseignement supérieur gratuit et émancipateur en 2015 chez Raison d'Agir. Et vous intervenez et publiez donc régulièrement sur ce sujet. Donc bonsoir, bienvenue sur Transistor, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Donc, récemment, on a découvert cette annonce du Premier ministre comme quoi les droits d'inscription dans l'enseignement supérieur passerait de 170 euros à 2770 euros en licence et de 243 ou 380 euros à 3770 euros pour le master et le doctorat, et ce, pour les étudiants étrangers extra-communautaires qui bénéficieraient pas d'accords bilatéraux. On a également entendu parler de... Enfin, il y a un rapport de la Cour des comptes concernant les droits d'inscription qui a été paru. À la découverte de ces nouvelles, quelle a été votre première réaction et quelle est votre première analyse de ces annonces ?
Alors, on passe à une phase de mise en œuvre de quelque chose qui est un projet qui existe depuis au moins 2004 et le rapport de deux économistes, Aguillon et Cohen, remis au Premier ministre de l'époque. Ça remonte loin, donc le Premier ministre c'était Jean-Pierre Raffarin, et qui est un projet de généraliser des frais d'inscription à des niveaux élevés, plus élevés que ça, pour tous les étudiants et toutes les étudiantes en France. Dès le départ, dès 2004, le projet c'est de le faire de façon... progressive, à petits pas, pour éviter d'avoir une mobilisation étudiante d'ampleur. C'est inscrit dans le rapport de Philippe Aguillon et Eli Cohen remis au Premier ministre en 2004. Et donc depuis, on a toute une série d'introductions et de hausses de frais d'inscription dans de très nombreux établissements. Et puis là, aujourd'hui, on a pour la première fois une hausse qui vise l'ensemble des universités, mais uniquement les étudiants étrangers extra-communautaires. Donc il n'y a pas une grande surprise, il y a plutôt... un petit changement d'échelle, puisque cette fois-ci, ça touche toutes les universités en même temps.
Alors, dans un tweet, le Premier ministre souhaite, je cite, que notre attractivité ne soit plus tant fondée sur la quasi-gratuité que sur un vrai choix, un vrai désir, celui de l'excellence. Alors, on retrouve là, justement, la prose chère à tous les rapports de type Aguillon-Cohen. Mais finalement, l'attractivité de la France, les chiffres le montrent, est effectivement plutôt en baisse auprès des étudiants internationaux. Alors finalement, est-ce que ce n'est pas une stratégie comme une autre pour signer la qualité de nos formations que d'augmenter les droits d'inscription ?
Alors bon, ça c'est une logique libérale, c'est la logique de la théorie du capital humain où ce serait le prix qui révélerait la qualité. C'est un peu à l'envers, parce qu'en général, pour les économistes, c'est parce qu'il y a un marché qui fonctionne que le prix peut faire ça. Et là, on va fabriquer le marché a posteriori en espérant que du coup... On aura cet effet signal, mais évidemment c'est pas dans ce sens-là que ça fonctionne. L'idée de l'attractivité des étudiants internationaux, elle se fait par la qualité des formations. Il y a un certain nombre d'établissements de très grande qualité en France, et surtout elle se fait parce que ça dépend des routes migratoires des étudiants, ça dépend des liens familiaux qu'ils ont, du fait qu'il y a des grands frères ou des grandes sœurs ou des amis qui ont fait des études en France et qui du coup on s'inscrit dans ces trajectoires-là, ce qui du coup fait que cette hausse qu'on apprend pour l'année prochaine est extrêmement brutale pour plein de futurs étudiants qui avaient prévu de venir en France, qui économisaient de l'argent pour le faire et qui là voient leur projet très profondément remis en cause à cause de cette hausse de frais de scolarité à 4 ou 3 000 euros suivant que c'est en master ou en licence. Et pour un certain nombre d'étudiants de pays... qui ne sont pas les pays les plus riches, qui ne sont pas les pays que Édouard Philippe vise, c'est largement suffisant pour remettre complètement en cause un projet d'études en France. Et éventuellement, d'ailleurs, plus généralement, un projet d'études supérieures, puisque c'est pas évident qu'il y ait beaucoup d'alternatives pour un certain nombre d'étudiants, ou en tout cas pour aller faire des études à l'étranger. Donc ça les amène à se rabattre sur des études locales dans un système d'enseignement supérieur qui est bien moins ambitieux.
Alors, on entend aussi beaucoup un discours d'ailleurs, me tenait le président de l'ENS cet après-midi aussi, qui est de dire que finalement la France est un système un peu d'exception et qu'il n'y aurait pas de raison que on pratique des frais d'inscription minimalistes entre guillemets, pendant que d'autres pays pratiquent des frais d'inscription bien plus prohibitifs, et en particulier une politique d'augmentation des droits d'inscription est quelque chose qui s'est déjà passé dans d'autres pays, les pays scandinaves par exemple. Alors qu'est-ce que vous répondez à ce discours-là ?
Alors c'est un choix politique, c'est un choix politique libéral. Il y a des pays beaucoup moins riches où l'enseignement supérieur est toujours gratuit, je pense à l'Argentine, mais à la plupart des pays latino-américains. C'est un service public auquel on a accès, qu'on soit d'ailleurs national ou pas national. Et que l'État met à disposition, ça permet l'exercice d'un droit. En France, c'est d'ailleurs un droit constitutionnel, le droit à l'éducation, quel que soit le niveau de la scolarité, et quelle que soit la nationalité. Il suffit d'habiter en France pour avoir le droit d'être éduqué en primaire, au secondaire, dans le supérieur, quel que soit l'âge des personnes. Par contre, ce qui moi me manque pas de me paraître important et qui est totalement absent de la façon dont c'est présenté par Édouard Philippe et par le gouvernement, c'est l'incroyable massification de l'enseignement supérieur qu'on vit en France depuis assez longtemps en fait, mais qui maintenant arrive à un niveau très significatif. On a beaucoup plus de participation des classes populaires à l'enseignement supérieur, et c'est à ce moment-là qu'on commence à se demander si ce serait pas plus juste de faire payer, ce qui est évidemment particulièrement pervers et injuste. Et aujourd'hui, enfin, on commence à avoir des étudiants des classes populaires qui participent largement aux études supérieures, que ce soit des classes populaires françaises d'ailleurs, ou des classes populaires et moyennes de pays moins riches, de pays qui longtemps ont été sous domination française d'ailleurs. C'est une des raisons pour laquelle ils sont francophones, et c'est plutôt en France qu'ils veulent venir faire des études supérieures. Et c'est à ce moment-là, maintenant qu'on arrive à près de 2,5 millions d'étudiants, qu'il faudrait réguler le système d'enseignement supérieur, limiter l'accès, le rendre sélectif et le rendre payant progressivement.
Alors justement...
Donc ça me semble particulièrement injuste. Ouais.
Justement, cette augmentation, elle a une résonance toute particulière, que ça soit chez vous d'ailleurs à Paris-Saclay, et à l'ENS de Paris-Saclay, nous à Lyon, dans l'ENS, mais aussi sur ces deux sites où l'enseignement supérieur est vraiment en pleine mutation. Et en quoi, du coup, alors vous parliez d'une augmentation pour les étudiants étrangers, mais qui de toute façon préfigure une hausse généralisée qui est annoncée depuis longtemps. Mais est-ce que cette mesure ne fait pas aussi écho à tout un faisceau de réformes universitaires qui sont actuellement en cours et qui sont à l'œuvre, en particulier dans certains de ces pôles qu'on souhaite faire émerger à l'échelle du pays?
Alors clairement, hein, il y a dans la façon dont s'est présentée l'idée de l'excellence et l'attractivité pour des étudiants étrangers de certains pays, il y a l'idée d'apparaître dans le classement de Shanghai et d'avoir des tarifs qui correspondent à nos places dans le classement de Shanghai pour certains établissements. On voit très très bien qu'évidemment c'est pas 3 ou 4 000 euros qui pourraient correspondre à des positions élevées dans ce classement-là. Donc clairement, l'idée c'est d'aller beaucoup plus haut dans les tarifs. Hein. D'ailleurs, c'était demandé déjà par une partie de la CPU, la conférence des présidents d'université. Et c'est participer à un mode de financement de l'enseignement supérieur qui n'est pas un financement pour tous les étudiants, pour tous les établissements, en fonction des besoins, mais qui est un financement en fonction de la capacité à avoir une clientèle solvable, à avoir des étudiants qui peuvent payer des frais d'inscription et pourquoi pas des frais d'inscription très élevés. Et ça permet à l'État de baisser le financement public et de financer davantage, sans donner l'impression d'avoir pris une décision politique, des établissements qui sont des établissements déjà très bien dotés, avec des étudiants qui ne sont pas ceux qui ont le plus de besoins, et puis de financer beaucoup moins bien d'autres établissements, ceux qui ont aujourd'hui beaucoup d'étudiants étrangers issus de pays africains, et aussi beaucoup d'enfants des classes populaires françaises. Ces établissements-là vont perdre une partie de leurs étudiants et vraisemblablement vont perdre une partie de leurs moyens, puisque eux n'accéderont pas aux moyens supplémentaires amenés par les frais d'inscription, par opposition à l'ENS Paris-Saclay, à l'ENS de Lyon, et plus généralement aux grands rassemblements d'universités, des grandes villes qui visent à être visibles internationalement, mais enfin surtout à se positionner sur ce marché global. Quoi. Donc on va renforcer une polarisation du système d'enseignement supérieur avec des établissements qui sont déjà très bien financés par l'État et avec des étudiants avec peu de besoins, au détriment des établissements qui s'occupent de la massification de l'enseignement supérieur, qui font un travail beaucoup plus difficile avec des étudiants à qui il faut beaucoup plus s'apporter, mais qui le font déjà dans des conditions dégradées et qui vont se retrouver encore plus distancés par ce type de financement.
Merci beaucoup Harari Kermadec. J'aurais voulu aborder rapidement les propositions que vous formulez aussi dans votre livre, mais comme le temps qui nous est imparti est dépassé, je renvoie nos auditeurs au livre que vous publiez donc avec le collectif Acide. Arrêtons les frais pour un enseignement supérieur gratuit et émancipateur, c'est chez Raison d'Agir. Et on vous remercie encore pour votre intervention sur Transistor.
Une heure de culture, d'actu, dans la bonne humeur sur Transistor.
C'est quand ?
C'est en ce moment.
Alors merci beaucoup Rémi pour cette interview et merci à du coup Hugo Carrari Carnadec pour avoir été là. Bon, je me suis trompée sur le nom, désolée, excusez-moi. On passe tout de suite à la chronique éducation pour rester un petit peu dans le thème avec Arthur qui nous a rejoint. Arthur, je t'en prie, après toi.
Eh bien, merci beaucoup Maë. Alors, je me suis rendu un mercredi soir 2 novembre à l'Institut de sciences économiques et sociales, économiques et politiques qui a ouvert ses portes en septembre. Une école située entre entrepreneuriat et sciences politiques, en vue de former une nouvelle élite économique et politique au service de la cité. Bon, en clair, former des cadres pour le privé comme pour le public. Bon, jusque-là, tout va bien. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que sa directrice n'était autre que Marion Maréchal-Le Pen. Ça vous dit quelque chose, non ? Ne vous étonnez donc pas si les enseignants recrutés dans les universités et grandes écoles françaises, mais aussi étrangères, présentent des profils plutôt conservateurs. On y trouve ainsi Patrick Louis, ancien député européen et membre du Mouvement pour la France de Philippe de Villiers, par ailleurs enseignant en économie à la fac de Lyon 3. On compte aussi Sylvain Roussillon, fondateur et dirigeant de l'Action française lycéenne, et à l'origine du renouveau militant monarchiste de la fin des années 1980 avec le mouvement Génération Maurras. On peut également citer Paul Gottfried, protectionniste et fondamentaliste chrétien, professeur à l'université de Pennsylvanie. Mais soyez rassurés, il n'y aura pas de dérapage comme au temps de Jean-Marie Le Pen, car le jeune essayiste Jacques de Guillebon, nommé coprésident du conseil scientifique, veillera au bon déroulement des cours. Ah oui, j'ai encore oublié de vous préciser que Jacques a déclaré en 2014 « L'homosexualité est un mal social, un mal spirituel, un mal existentiel, et rien ne nous empêchera de le penser et de le dire. » Voilà, amis LGBT, passez votre chemin. Dans la famille Le Pen, à chacun son bébé, le Front National pour Jean-Marie, le Rassemblement National pour Marine et l'ICEP pour Marion. Celle qui refuse désormais de porter le patronyme Le Pen veut conquérir l'enseignement supérieur en ouvrant cette nouvelle école à Lyon, dans le quartier de la Confluence, à quelques mètres du conseil régional de Laurent Wauquiez. Pour Patrick Louis, le coprésident du conseil scientifique, cette école résulte d'une attente des étudiants et des acteurs de la cité pour trouver des gens avec une bonne formation. Mais oui, l'éducation nationale délivre des programmes incomplets. On insiste sur les détails de l'histoire en passant à côté du fondamental. Ne vous inquiétez pas, l'ICEP va réparer cette lacune. Sylvain Roussillon, fervent admirateur de Raymond Aron, pourra vous enseigner la théorie du glaive et du bouclier, trop souvent laissée de côté par les professeurs d'histoire-géo au lycée. La mémoire du maréchal Pétain en sortira confortée, et ce n'est pas pour déplaire à Marion. Bon, on ne va pas se mentir, l'académie de Marion Maréchal vise clairement la jeunesse conservatrice française. L'ex-député du Vaucluse exprime dans une interview à Valeurs Actuelles, ça ne s'invente pas, la volonté de cultiver le terreau dans lequel tous les courants de la droite pourront se retrouver et s'épanouir. Il s'agit ainsi d'un institut de formation des cadres de la droite dure de demain. Le vieux rêve de Bruno Maigret d'avoir des hauts fonctionnaires nationalistes se réalise enfin. Le 6 septembre, jour des portes ouvertes de l'école, une trentaine de membres du collectif de Vigilance 69 se sont rassemblés devant l'hôtel de région à Lyon afin de protester contre l'ouverture de l'ICEP. Ce n'est pas une simple école, c'est une école destinée à former des cadres de l'extrême droite, s'indigne un manifestant qui s'inquiète de l'emprise de cette frange politique à Lyon. Si elle s'implante ici, c'est qu'elle pense qu'il y a un terrain favorable où sont présents des groupuscules d'extrême droite radicale. Un autre participant souligne que le diplôme délivré par l'école, non reconnu par l'État, ne vaut rien. Et oui, en effet, Patrick Louis le confirme en expliquant qu'il s'agira d'un titre certifié Bac plus 5, exprimant qu'un diplôme est valable lorsqu'il est reconnu par les employeurs et non par l'État. Nonobstant, il explique vouloir tout faire pour obtenir une accréditation étatique et des partenariats universitaires. Selon les protestataires, l'ouverture de cette école est un des éléments de la préparation du retour de Marion Maréchal dans la sphère politique. Personne ne croit à son retrait de la vie politique. Avec cette école, elle va former ses troupes. En avant-marche, amis fachos de tous bords. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que Patrick Louis a balayé les critiques sur la possible orientation politique de l'école, qui pour certains formerait uniquement les cadres de l'extrême droite. Est-ce qu'il y a un Sciences Po de gauche ? Demande-t-il. Pour lui, la société met les gens en boîte, affirmant être déjà considérés comme hors-jeu sans avoir commencé à taper dans le ballon. Laisser naître des écoles libres et indépendantes, ça fera du bien, lance-t-il, pour que la pensée politique retrouve de la réflexion et un enracinement. nous voilà rassurés. D'ailleurs, c'est ce que cherchent à faire certains grands journaux, nous rassurer. L'école de Marion Maréchal ne serait qu'une bulle sans financement prête à s'effondrer. Sauf que celle-ci peut compter sur l'appui de riches républicains américains. En invitant des personnalités des différentes droites, Marion se bâtit un solide réseau national et européen, notamment avec les Italiens de la Ligue. Sa démarche métapolitique est à prendre au sérieux. Ses proches ont récemment noté avec gourmandise qu'elle était désormais plus populaire que Laurent Wauquiez auprès des sympathisants Les Républicains. À quelques mois des européennes, la formation d'une union des droites conservatrices et nationalistes européennes peut en inquiéter plus d'un. La façade immaculée de l'école, les locaux aseptisés, les étudiants à la langue de bois, les affiches lissées, les sourires helmex de jeunes blondes au type arien ont bien du mal à laisser échapper la même odeur moisie et nauséabonde des idées de l'extrême droite. Ne nous méprenons pas, à l'ICEP se prépare un véritable plan d'attaque politique. Les intitulés des cours le prouvent. Vous pourrez ainsi participer au cours « Développer une stratégie victorieuse de campagne électorale » avant d'étudier les techniques de désinformation dans l'histoire. Vous aurez alors le choix entre un cours sur les conservatismes aux États-Unis et en Russie et un autre sur la lutte contre les idéologies mondialistes et le transhumanisme. Bref, des intitulés de cours qui cachent mal la volonté de l'ICEP d'en finir avec la société du vivre ensemble.
Eh bien, voilà qui augure bien, Arthur, hein, surtout que ce sont nos voisins depuis quelques mois. Ici, à l'ENS, effectivement, on est juste à côté, géographiquement parlant. Et voilà, c'est la mini-table dans ce moment qui s'achève. Mais avant de passer à la rubrique Lifestyle, joliment nommée, une petite page de pub.
Mes amis, lorsque tout semble mort, lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu, morose, il faut penser transistor. Non pas penser transistor pour s'émerveiller par bêtise ou par une forme de béatitude médiocre, mais penser transistor parce que, au moment même où cette désolation de l'hiver s'installe dans la nature, quelque chose se prépare. Qui est déjà là. Alors, certaines et certains ne le voient pas. Certaines et certains peuvent désespérer, mais Transistor revient en direct. Il est déjà là. Alors ce soir, pour vous et vos familles, pour nous toutes et tous, je veux vous dire de penser Transistor.
Cet hiver, pour lutter contre le froid, pensez à Transistor.
Eh oui, pensez à Transistor, il est 18h48, mais on est presque dans les temps, c'est incroyable. On est même en avance en fait, il va falloir que je meuble pendant 15 secondes, mais je sais vraiment pas quoi dire. Alors je vais tout de suite passer la parole à Titouan qui va nous faire son édito philo pour ouvrir cette rubrique Lifestyle, n'est-ce pas Rémi?
Oui, exactement Maë. Alors ce soir, je vais parler de vérité et précisément essayer d'étudier en quoi la vérité exclut toujours le différent et la réalité de l'existence. Hier soir, je me couchais de bonne heure en espérant m'endormir tôt. Mais comme il arrive souvent à ce moment, des questions naissaient en grand nombre dans mon esprit. Au début, je pensais à la détresse des gilets jaunes, ensuite au conflit syrien. Puis je me demandais, le genre c'est une affaire de culture ou de nature ? Là, je me souvenais que la semaine dernière, un savant fou et chinois avait fait naître pour la première fois au monde des bébés génétiquement modifiés. Après, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle voulait dire quand elle m'a dit « pourquoi pas ?» Ça voulait dire « peu m'importe, j'en ai rien à faire de ta vie » ou « si t'es chaud, moi aussi je suis chaude ». Auquel cas, ça voulait dire « vas-y, fonce ». Mais qu'est-ce qu'elle se passait si je me ramassais ? Il faut dire que je m'étais mêlé d'affaires sérieuses toute la journée. Hein. Le matin, j'avais lu les journaux sur mon téléphone, puis j'avais rencontré la fille admirée, avec elle j'avais assisté à un colloque de biologistes consacré à l'identité et à la génétique. Le soir, j'avais analysé un texte de Judith Butler pour les cours et enfin, j'avais appelé mon oncle Thierry, qui était en train de bloquer la D14. Pour tout dire, la conversation téléphonique était agréable, jusqu'au moment où il m'expliquait que les noirs empêchaient le mouvement. Bref, dans ma tête, le tout était maintenant singulièrement mêlé. Je commençais à voir la fille de mes rêves en gilet jaune, un bébé de GMO dans les bras, en train de pourparler avec Bachar al-Assad afin de lui faire signer une loi pour la reconnaissance du sexe neutre. Je fus bientôt fasciné par ce problème nouvellement posé. Bien que pertinente, sa reformulation avait pas mal d'implicites, que je n'avais pas le temps de développer, là, tout de suite, dans mon lit. Mais pas plus bête qu'un autre, hein, j'ai fini par m'endormir. La nuit porte conseil, comme disait Jean. L'esprit frais et reposé, le matin, je perçus les choses différemment. Le monde et ma personne semblaient incompréhensibles. Bien qu'armé de tout mon courage et de toute ma force de pénétration, mes chances de résoudre ces problèmes d'ordre universel et individuel étaient très maigres. D'ailleurs, la fille avait peu de chances d'être intéressée par moi si elle avait un bébé OGM et qu'elle se battait pour un monde meilleur. Et puis, la détresse des gilets jaunes ressemblait étrangement à ma situation sentimentale. Je craignais qu'on connaisse une fin identique. La révolte est après tout un cri du cœur, non ? Nul ne sait de quoi demain sera fait, mais beaucoup en ont le violent pressentiment. Voici donc les choses telles qu'elles m'apparaissaient à la lumière du grand jour. Ce qui m'embrouillait les idées, c'était d'abord le trop grand nombre d'opinions que j'avais entendues. Les journalistes, le biologiste, Judith Butler et mon oncle, tous avaient leur vérité. J'apprenais malheureusement que les vérités ne font pas bon ménage. J'étais seul laissé au milieu de ce conflit. Expliquons-nous un peu mieux. Pour tous ces gens bien intentionnés et qui pensent, ce qu'ils ne conçoivent pas ne peut pas exister. Pour le journaliste, rien n'existe au-delà des discours et des images. Pour un biologiste, rien n'existe dans l'homme au-delà de processus physico-chimiques. Pour Butler, il n'y a pas de genre homme-femme ailleurs que dans les discours de pouvoir. Pour mon oncle raciste, il n'y a de patriote que blanc, tandis que pour les progressistes, mon oncle ne devrait même pas exister. Bref, nous tous qui pensons un tant soit peu avons une vérité qui exclut l'autre et le différent. Quant à moi, eh bien, vous savez. Bah si, vous savez. Moi, je peux pas concevoir que je saoule de mes discours une fille que ça aurait dû précisément passionner. Voici donc toute l'ironie de l'histoire. Comme l'écrit Vladimir Jankélévitch, il reste toujours un presque rien, un je ne sais quoi de différent qui résiste à notre compréhension. Par exemple, notre biologiste n'est pas à l'abri de tomber amoureux, et comme Auguste Comte en son temps, de se mettre à genoux devant un monsieur X, un sombre inconnu dont il ne se mêlera plus de compter les chromosomes tant qu'il est aimé par lui. Mon oncle non plus n'est pas à l'abri, lors d'un barrage, de tomber sur un noir qui boit autant de jeunes et chante peut-être même mieux Sardou que lui. Un soir de lassitude, Judith Butler, allumant sa radio, se dira peut-être « Tiens, elle a beau être un produit de la représentation, un modèle du genre, mais c'est pas mal Miley Cyrus en fait. » Quant aux journalistes, certains songent parfois à tout laisser tomber et écrire comme Claire Chazal un livre profond, où le cœur se ferait sentir sous l'image. Ainsi, nous qui voulons tout dire, tout montrer, tout penser, nous serons probablement confondus et ramenés à une réalité secrète et mystérieuse. Pour quelle raison précisément ? Imaginons seulement ce que ce serait si chaque vérité allait au bout de son mouvement. Ayant tout pensé de l'homme, notre ami biologiste n'aurait plus qu'à chercher le gène de la production des connaissances, et même le gène qui est la cause de sa recherche présente. Nos chers journalistes, ne jurant que par la transparence et la véracité des faits, devront bientôt filmer leurs conférences de rédaction, ou se balader avec Snapchat. Mon oncle raciste se transformerait lui en facho totalitaire et serait bientôt tout seul. Et si nous n'en arrivons pas à cette extrémité dramatique, c'est parce qu'on est tous un peu philosophes. Einstein disait « La chose la plus incompréhensible au monde, c'est que le monde soit compréhensible. » Il s'agit exactement de la même chose. Einstein poussait la vérité jusqu'à ce point conflictuel où celle-ci rend impossible l'existence de l'homme et sa capacité à la compréhension. Je vous donne donc rapidement ma solution. Hein. Puisqu'on ne peut pas penser la totalité des choses, puisque les vérités sont exclusives, conflictuelles et qu'il n'y a nulle part dedans la place pour être, est-ce que la meilleure chose à faire ne serait pas seulement de douter de ces vérités ? Ce serait faire droit à ce différent, ce mystérieux, ce qui est à la fois nous-mêmes et pas nous-mêmes, notre ombre. La solution serait alors dissolution dans un beau noir profond. Ainsi, la morale de ces longs palabres pourrait être « Ne prenons pas les vérités à la lettre, mais prenons-les par la main. Doutons un peu, mais soyons doux surtout. » Oh, it's light, it's free, it's someone waiting for me, who'll someday be my wife, good morning light.
Eh bien, merci beaucoup, Titouan, pour cette chronique très intéressante. Ma foi, j'espère que la fille de tes rêves t'a entendu. Au moins, ça aura servi. Alors maintenant, on passe tout de suite à la voyance avec Occitane qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Occitane.
Bonsoir. Alors aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. J'ai perdu ma chronique. Et oui, hier soir j'étais... Non, j'étais pas en boîte avec Bec BD, Félix, c'est pas la peine de crier dans le micro. Non, hier soir je préparais consciencieusement ma chronique voyance. Vers 23h, j'ai décidé de partir en voyage astral pour aller chercher des petites infos sur l'avenir qui en ce moment paraît plus incertain que jamais. J'ai mis des ancrages de tourmaline noire à mes pieds, des cristaux sur mes mains et un petit encas pour la route. Petite musique d'ambiance, encens et herbes de Provence, me voilà partie. Et là, je ne vous raconte pas, quelque chose a dû déconner. Je me retrouve en Égypte ancienne, et pas l'Égypte ancienne en mode Marc-Antoine et Cléopâtre, non, non, non. L'Égypte ancienne en mode séance d'embaumement, et vas-y que je te sors le cerveau par le nez, vas-y que je te mets de la paille dans le bide, franchement, j'étais pas bien.
jusqu'au moment où il m'a semblé reconnaître la momie. La ressemblance avec l'ancien, nouveau, actuel maire de Lyon était frappante. Son père sans doute, toujours est-il que l'association d'idées était efficace. GG, ministère de l'Intérieur, Castaner, Kéké de Marseille, Marseille tout court. Et là je vous raconte pas. J'ouvre les yeux et je suis dans un nuage de fumée. Pas une fumée de lacrymo qui pique, pas une fumée de feu de bois qui fait tousser, pas une fumée de pollution qui étouffe. Une fumée de plâtre qui aveugle, une fumée qui fait pleurer, une fumée qui cache. 8 morts dans les immeubles écroulés, 2 blessés. Comme on y voyait comme à travers une pelle, je décide de bouger, je ferme les yeux et j'atterris 3 semaines plus tard. Puis j'avais une lettre dans les mains où c'était écrit « Madame, Monsieur, nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli le courrier que nous adresse Groupama, assureur de la copropriété, nous informant du retrait de la garantie effondrement à la date du 1er 02 2019. La garantie effondrement figurant au contrat n'est pas obligatoire, l'assureur a donc le droit de la retirer des garanties, et ce, lors du prochain renouvellement du contrat. Afin de protéger au mieux vos intérêts, nous procédons à la signature de l'avenant afin que l'immeuble ne soit plus assuré au 31 janvier 2019. Bien entendu, nous avons consulté au préalable d'autres compagnies. À titre d'information, le montant de la prime aurait été multiplié par 6 ou 7 sans la garantie effondrement. Nous sommes désolés que votre copropriété soit pénalisée à la suite des événements qui se sont produits sur les immeubles de la rue d'Aubagne. Recevez Madame, Monsieur, l'expression, etc., etc. Donc les habitantes les habitants du 66 rue d'Aubagne, en face des immeubles effondrés, ont reçu cette charmante missive de la part de leur assurance aujourd'hui. Et du coup, je voulais faire un petit coucou à toi, Groupama Marseille, situé 4 place du Général de Gaulle, délicieuse ligne téléphonique au 04 90 96 17 27 90.
Voilà, appel massif sur Groupama. Tout de suite sur Transistor. Merci beaucoup Occitane pour cette chronique voyance qui est très voyante. Bon allez, j'essaye d'éviter de faire d'autres blagues. On passe tout de suite à une page de pub. Il est 18h57 sur Transistor.
Et ça veut dire KFC, c'est bon.
Bonjour, il me faut un truc là à bouffer, vite!
Si vous avez pas le temps, prenez un taco XL. Il y a l'équivalent d'un repas.
Oh, c'est pratique!
Et vous avez droit à 3 viandes. Mais faites juste attention aux petits morceaux de gras qui...
C'est pas un peu...
Avec des frites dans le tacos, bien sûr, qu'on ajoute.
Beaucoup.
Plus la sauce de votre choix.
Mais...
Il y a des suppléments aussi, si vous voulez.
Mm-hmm.
Dans de la sauce fromagère.
Blah.
Aussi, vous pouvez trouver quelques bouts de peau de celui qui prépare votre tacos.
Alors là, non, je...
Au tacos, il y en a pour tous les goûts.
Oh putain, un doigt !
Tous les goûts.
Et voilà, c'était la page de pub. Il est 18h58 sur Transistor, on est dans les temps. Et voilà, c'est déjà en ce moment qui se termine. Et avant de passer à la suite... On va donc remercier Marie, Étienne, Vinciane, Juliette, Arthur, Benoît, Claire, Rémi et son invité. En duplex depuis Cachan, Arthur, Félix, Titouan, Occitane, Maë et Nelly qui vient de faire sa première régie en direct, qu'on remercie beaucoup. Et aussi Eva qui vient de nous voir depuis la régie. On lui fait coucou à travers la vitre. Mais ne nous quittez pas encore, c'est encore le direct d'anniversaire jusqu'à 22h30. Ça vient seulement de commencer.
Congratulations. Bonjour, c'est Zinedine Zidane et je lui souhaite un joyeux anniversaire.
Fidèle auditeur en Australie, en...
bonjour et joyeux anniversaire.
Voilà, c'était sur
Transistor.
Oui, c'était un des grands moments de l'histoire.
Il est 19h sur Transistor. Je vous accueille de nouveau pour annoncer le nouveau programme La Clé des Champs. Arthur, Mathilde, je vous laisse la main.